RSE Time avec les locataires, une émission environnement sur Radio G.
Salut tout le monde, c'est Marius au micro de Radio G. Je suis avec toute l'équipe des locataires, Muriel.
Salut.
Titouin.
Salut tout le monde.
Gaspard.
Salut.
Et Félicien.
Salut.
Alors nous sommes tous élèves en STAV. Aujourd'hui, le thème de l'émission va porter sur l'artificialisation des sols. Du coup, je vais laisser la parole à Gaspard pour commencer.
Alors, l'artificialisation des sols, qu'est-ce que c'est ? Donc d'abord, je vais vous parler du sol. Qu'est-ce que c'est le sol ? Donc le sol, c'est... Et qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est précieux surtout ? Donc le sol, c'est une formation naturelle, souvent en meubles, plus ou moins meubles, issue de la dégradation des roches sous l'effet du soleil, de la pluie, du vent, des plantes, des animaux, mais surtout du temps. Mais c'est surtout une grande maison, l'habitat de la moitié de la vie sur Terre. Une cuillère à soupe de terre contient plus d'êtres vivants que d'humains sur Terre. Les sols sont précieux car ils nous permettent de produire de la nourriture, des matériaux de construction comme le bois, du coton, ce qui nous permet de faire des vêtements. Ils nous permettent aussi de capter du carbone et de filtrer l'eau. Bref, les sols nous sont vitaux. Donc, artificialiser un sol, c'est souvent le rendre imperméable en le tassant, puis en y mettant du goudron, du béton, un bâtiment, un parking, une route. Et tous ces projets font perdre au sol ses capacités et ses fonctions naturelles, qui, vous l'avez compris, nous sont vitales. Cette artificialisation représente un département artificialisé tous les 10 ans. C'est un phénomène qui est souvent irréversible. C'est presque impossible de redonner de la fertilité à un sol qui a été artificialisé. Mais pourquoi on artificialise les sols ? En fait, depuis plusieurs dizaines d'années, nos modes de vie ont changé. La population vit de plus en plus seule, la famille sont de moins en moins nombreuses et ont de plus en plus besoin d'espace. C'est là que les quartiers composés de maisons individuelles sont apparus. Vous voyez toutes ces maisons où on peut faire le tour de la maison par le jardin avec la tondeuse. C'est bien sympa, mais ça coupe beaucoup d'espace. Sans compter toutes les maisons secondaires qui artificialisent elles aussi. Les collectivités aussi sont pointées du doigt. La tendance actuelle, c'est de construire pour dynamiser un territoire. Même s'il n'y a pas de demande, les zones d'activité émergent pour créer de la concurrence entre elles. Il faut savoir que 20% des collectivités occupent 82% des sols. Heureusement, en 2021, la ZAN est promulguée. C'est le zéro artificialisation net. C'est une loi qui a comme objectif de réduire de moitié l'artificialisation des sols d'ici 2030, puis d'atteindre le ZAN zéro artificialisation net en 2050. Les communes disposent d'un quota de terres artificialisables en fonction de ce qu'elles ont déjà construit. Les maires des communes rurales se plaignent de ne plus pouvoir accueillir de nouveaux habitants et de ne plus pouvoir se développer économiquement. Il faut quand même savoir qu'en France, l'artificialisation augmente 4 fois plus vite que la population. Et il y a 26 fois plus de logements vides que de personnes sans logement personnel. Donc si on rénovait tous ces logements, on pourrait éviter tout un tas de constructions.
Merci Gaspard pour cette chronique. Maintenant, on va laisser la parole à Titouin.
Ouais, en effet, il y a aussi de l'artificialisation autour d'Angers. Donc, je vais vous parler de la Nouvelle Océane. C'est un projet aux portes d'Angers pour faire des plateformes logistiques après celles d'Action et d'Invivo. C'est au tour de d'autres grandes entreprises de s'installer sur un nouveau terrain d'une centaine d'hectares. Angers-Loire Métropole veut donc créer un nouveau parc d'activités au bord de l'autoroute A11, ce qui va amener des terres agricoles et même des maisons à être condamnées à disparaître. Et en juillet 2023, d'ailleurs, il y a eu une grande mobilisation d'environ 400 personnes qui se sont rassemblées sur le terrain de la future zone d'activité de la Nouvelle Océane. L'appel de la manifestation a été lancé par l'antenne locale des soulèvements de la Terre et ils dénoncent l'artificialisation des terres agricoles fertiles et des zones naturelles classées Natura 2000 et zones SNIEF, donc zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, qui sont vraiment super importants pour le maintien de la biodiversité. Et donc ces destructions, elles ne peuvent pas être justifiées par des raisons économiques.
Merci beaucoup Titouin pour cette mini-chronique. Maintenant, on va pouvoir discuter tous ensemble sur cette nouvelle océane. À vous la parole.
Alors, moi, je voulais rebondir sur ce que tu as dit, Titouan. Tu as dit qu'il y avait des zones naturelles classées SNIEF, Natura 2000, qui pouvaient être artificialisées. Comment c'est possible ?
Bah, ils disent qu'ils voulaient faire de la compensation en plantant des arbres, mais en fait, apparemment, c'est leur dernier gros projet d'artificialisation, mais en effet, ça ne justifie pas de détruire des zones humides qui sont vraiment super importantes. Et vous pensez que le projet il est utile pour un grand entrepôt d'Action ou d'Amazon et toutes les autres grandes entreprises ?
Bah, il est utile économiquement, on voit bien, on retrouve la volonté des communes de se développer économiquement. Et puis il faut dire que pour les compensations, en théorie, les zones détruites sont compensées à la même échelle, enfin à échelle égale. Mais ces compensations, elles sont souvent critiquées pour plusieurs raisons. Les zones compensées sont parfois implantées sur des zones naturelles ou quasi naturelles, ce qui fait que ces zones, eh ben, elles ont un intérêt environnemental moindre, puisqu'elles étaient déjà naturelles. Puis il y a d'autres gens qui dénoncent ces compensations. Ils les traitent de droit à détruire et à artificialiser. Puis parfois, ces promesses d'artificialisation, de compensation, elles ne sont pas du tout tenues.
Et puis oui, concrètement, la compensation, c'est le fait de recréer des espaces naturels, par exemple des zones humides, qui ont été détruits pour le projet. Et en soi, on ne retrouvera jamais la même biodiversité, parce que chaque biodiversité, chaque sol sont uniques. Recréer, c'est un peu utopiste de penser qu'on retrouvera la même chose. C'est plutôt beau pour faire le papier. Enfin, beau sur le papier.
Oui, on imagine bien, si on coupe un chêne de 100 ans ou 200 ans et qu'on plante un tout petit chêne, même au bout de 10 ans, le tout petit chêne replanté, il n'aura pas du tout la même fonction de captage du carbone, d'accueil de biodiversité. Enfin, ces compensations, elles peuvent marcher sur le très très long terme, mais à court terme, sur 10-20 ans... Elles sont pas très
efficaces. Oui, et on n'a plus le temps de bétoniser des centaines d'hectares pour le profit de l'économie. Et enfin, faut mettre l'urgence sur la transition écologique et pas sur la transition économique, quoi.
En soi, les arbres, le fait de voir disparaître des arbres, c'est plutôt de voir disparaître des habitats, parce que quand on replante un arbre, bah, il capte aussi du carbone. Mais en soi, on perd une telle biodiversité, et à la fois parce qu'on perd des essences, des arbres, et à la fois parce que y a des êtres vivants qui vivent.
Merci à toute l'équipe pour cette discussion. Maintenant, place à la musique. On va vous faire écouter un morceau du groupe Dire Straits qui se nomme Walk of Life.
Come join. measure all the violence and double talk. It's just a song in all the trouble and the strife. You do the walk, yeah, you do the walk of life. You do the walk of life.
Bonjour tout le monde, vous êtes encore sur Radio G avec les locataires du lycée Angèle Lefresne. C'était Walk of Life de Dire Straits. Puis on poursuit l'émission avec un petit jeu que Félicien nous a préparé.
Alors oui, effectivement, je vous ai préparé un petit quiz. Donc le principe, donc je vais vous poser une petite question à chaque fois. Il y aura plusieurs réponses et à vous de trouver du coup la bonne. Donc on va commencer. Alors d'après vous, combien de mètres carrés de terre sont artificialisés chaque seconde en France ? Réponse A, 5 mètres carrés par seconde. Réponse B, 16 mètres carrés par seconde. Ou la dernière réponse, réponse C, 26 mètres carrés par seconde.
Moi, je dirais 16.
Ouais, moi aussi, je dirais 16.
Eh ben non, c'était la réponse C. Du coup, c'était 26 mètres carrés. C'est beaucoup, oui, c'est sûr. Et du coup, c'est d'après l'idée à la con, artificialisation des sols, du coup, de la chaîne Marianne, que l'on peut retrouver sur YouTube. Du coup, c'est 26 mètres carrés de terre fertile qui disparaissent chaque seconde en France. Je vais pouvoir enchaîner avec la deuxième question. Donc, de combien a augmenté la superficie de l'artificialisation des sols entre 1982 et 2018 ? 38%, 52%, 65% ou 72%?
Tito, hein?
Je pense qu'elle a augmenté de 65%.
Non, c'est pas ça.
Ah. C'est plus?
Oui.
Ouais, t'avais dit 72?
Oui, c'est ça. Oui, c'est, effectivement, c'est énorme. Et c'est aussi à cause de l'urbanisation que durant toute cette fin du 20e siècle qui s'est développée davantage et davantage. Qui a fait évoluer cette artificialisation. Je vais enchaîner avec une autre question. Quels sont les différents types de zones classées artificialisées ? Entre, du coup, on a pris plusieurs exemples sur la ville d'Angers. Donc, le Jardin des Plantes à Angers, les serres en verre de Saint-James-sur-Loire ou un champ de panneaux photovoltaïques.
Gaspard ?
Bah, déjà, moi, je dirais les serres en verre parce que c'est un milieu complètement artificiel avec du béton au sol et tout.
Et ben non, en fait, c'est pas cette réponse là.
Ah ouais ?
Contrairement à toute attente, non, c'est pas celle-ci.
Bah, les panneaux photovoltaïques alors ?
Non, non plus.
Ah bon ?
Bah, ça peut pas être le jardin, c'est quand même plutôt naturel.
Et ben si, pourtant, c'était la réponse, hein, c'était le jardin. Pourtant, le jardin, oui, on pourrait dire, oui, il est créé de toutes pièces, on change beaucoup de végétaux sur le milieu en ayant un impact sur l'écosystème. Mais pourtant, les serres et les champs de panneaux photovoltaïques, ça a l'air vraiment deux fois pire, et c'est vraiment le cas. Mais pourtant, ils sont comptés comme zone naturelle. Donc, est-ce normal ? Et alors que l'on bétonne bien plus ce type d'infrastructure et l'impact est bien plus important sur le milieu ? Alors, pourquoi on compte ça comme zone naturelle ? Ça, c'est une certaine question. Je vais pouvoir enchaîner avec la dernière question. Donc, d'après la loi ZAN, jusqu'à combien de mètres carrés une zone peut être comptée comme zone artificialisée avec des dérogations ? Donc, réponse A, 10 000 mètres carrés. Réponse B, 30 000 mètres carrés. Et la dernière réponse, 3 000 mètres carrés.
Je sais pas, t'as évoqué tout à l'heure qu'il y avait des dérogations, mais ça doit pas être énorme, je sais pas, 3 000 mètres carrés ?
Non, c'est plus.
10 000 mètres carrés ?
Oui. C'est pourtant, ça représente un hectare, c'est beaucoup. Effectivement, les dérogations de l'urbanisme, surtout commercial, sont jusqu'à 10 000 m² pour compter une zone comme artificialisée. On peut se poser la question, est-elle vraiment bien appliquée et assez respective pour empêcher l'artificialisation des sols, cette loisanne en tout cas. Et pour faire une transition avec le débat à venir, une petite dernière question. D'après vous, pourquoi il est nécessaire de limiter l'artificialisation ?
Dites-moi.
Je pense qu'il faut limiter l'artificialisation déjà pour préserver la biodiversité, préserver un maximum d'arbres, un maximum de zones humides, même préserver des maisons qui peuvent être détruites par des entrepôts. Je pense que ça, c'est vraiment essentiel.
Ouais, pour la vie qu'il y a au sol, dans les haies, partout, dans les cours d'eau, la vie, en fait, on ne se rend pas trop compte, mais toute cette vie, elle nous est vitale, quoi.
En plus de ça, on sait que 1 million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction, largement dues à la destruction et l'artificialisation de leur habitat. Donc du coup, c'est vraiment le moment, en plus du réchauffement climatique, parce que les sols remplissent une fonction de permettre de capter le carbone. Donc là, il est plus que temps de les préserver.
Du coup, on va passer au débat sur la problématique suivante. L'A69 est-il un projet utile ? Place au débat. Je te laisse la parole, Titouan.
Et d'abord, je vais vous faire une petite présentation du projet de l'A69. Donc, l'A69, c'est un projet d'autoroute reliant la ville de Castres à celle de Toulouse sur une longueur de 53 km. Elle détruirait 300 hectares de terres agricoles tout en longeant une route nationale entre justement Castres et Toulouse qui existe déjà depuis assez longtemps. L'A69, elle permettrait de gagner seulement entre 15 et 25 minutes de trajet par rapport à cette route nationale. Et le coût total du projet est élevé à 450 millions d'euros et il faudrait 8,30 € pour faire Castres-Toulouse, ce qui deviendrait un des péages le plus cher de France. Et on a beaucoup parlé de la 69 en 2023, parce qu'elle a été très médiatisée, notamment avec des grèves de la faim des opposants et celle de Thomas Braille qui a créé le groupe national de surveillance des arbres. Et il y a aussi eu de grandes manifestations d'organiser avec les soulèvements de la terre qui ont rassemblé des milliers de personnes là-bas. Et il y a aussi eu des occupations en créant des ZAD, donc zones à défendre, sur le territoire. Et du coup, vous pensez que la 69, c'est un projet utile ou pas ?
Vas-y, Muriel.
Je voudrais revenir. En fait, la 69, en plus de enlever des terres agricoles, donc de ne pas réussir à être autonome et d'atteindre l'objectif de la souveraineté alimentaire, c'est 400 hectares de bitume en tout et des maisons expropriées. Des autoroutes qui coupent complètement les champs.
Je sais pas trop si c'est un. Moi, je sais pas trop si c'est un projet cohérent, parce que je me demande si c'est vraiment dans l'air du temps de rouler vite, d'aller toujours plus loin en voiture, d'aller travailler loin, alors qu'on dit qu'il veut redynamiser les campagnes, les petites villes, les petits villages. Donc relier les grosses villes entre elles pour mettre de côté les petits villages, je sais pas trop si c'est ce qu'il faut faire, quoi.
Et vas-y, Félicien.
Moi, je me dis, est-ce que c'est vraiment cohérent de construire cette autoroute, sachant qu'il y a déjà une nationale et que la liaison entre Toulouse-Castres n'est pas forcément une liaison où il y a, je pense, énormément de personnes qui circulent. Et surtout, il faudrait diminuer aussi la circulation. Là, on participe à justement vouloir continuer justement les transports, tout ça, par camion, par marchandises, et aussi en voiture, que les gens bougent au lieu d'utiliser les transports en commun, etc.
Oui, tu veux dire un truc, dis-toi.
Et en plus, la 69, du coup, elle bénéficierait que aux plus riches, avec un péage à plus de 8 euros. Les pauvres et les gens plus précaires, ils pourraient pas se payer ce genre de route. Du coup, c'est vraiment pas du tout accessible à tous.
Gaspard ?
Et puis, je voulais revenir sur ce que tu disais, Félicien. Il existe déjà une route. Et puis, dans l'aménagement de cette autoroute, ils veulent réaménager la route existante et y rajouter plein de ronds-points pour un petit peu, en quelque sorte, rallonger le trajet. Donc, moi, j'y vois un côté un peu malsain en faisant en sorte que les gens utilisent plus l'ancienne route et puis soient contraints, pour gagner du temps, parce que les gens courent, d'utiliser l'autoroute, puisque les gens n'ont pas non plus envie de passer plein de temps sur la route.
Muriel ?
En plus de ça, on sait que les transports sont les principaux émetteurs de CO2. Donc, les lois, quand même, veulent s'inscrire dans une démarche écologique et ça respecte pas du tout les objectifs, tout en sachant que 61% de la population, d'après l'IFOP, donc c'est l'Institut français d'opinion publique qui est indépendant, sont en désaccord avec le projet A69. Les personnes qui habitent proches du projet, sans compter les milliers de personnes qui se sont retrouvées en manifestation.
Oui, je ne sais pas s'il y a eu une si bonne concertation des populations locales qui habitent à côté, mais même surtout des populations, des gens qui se sont fait exproprier pour un projet qui a un but purement économique.
Et vas-y, dis-toi.
Et en plus, la 69, c'était un projet de vieux de 30 ans. Donc à l'époque, ils ne se posaient pas toutes ces questions de changement climatique, tout ça, alors que maintenant, on le sait très bien que c'est pas du tout un projet viable. Et il faut surtout pas que ce projet il se fasse, parce que ça détruirait ça détruit déjà en fait des arbres centenaires et qui protègent vraiment la biodiversité contre une compensation avec des petits arbres plantés. Et franchement, beaucoup de monde ne voit pas l'intérêt de ce projet.
Oui, ce que t'évoques, Titouan, le fait que ce soit un projet vieux de 30 ans, il y en a d'un côté qui le dénonce, qui utilise cet élément pour dénoncer, pour dire ben non, c'est plus d'actu. Et les politiques, ils utilisent cet élément comme argument. Ils disent ben non, ça fait 30 ans qu'on prépare ce projet, on va pas changer les choses au dernier moment. C'est un peu un des arguments phares pour soutenir la construction de cette autoroute, quoi.
Muriel.
Surtout que le projet quand même met en avant un peu sa démarche écologique, puisqu'ils ont fait un rapport qui promettait 25 hectares de haies et de boisements plantés, 200 aménagements pour eau et animaux, donc par exemple des parcelles, 55 hectares de zones humides et des aires de covoites, etc. Et en fait, on observe, ils promettent 23% du budget total en plus de ça, qui sera consacré au cadre de vie et à l'environnement, sauf que on voit que en fait les concessionnaires ne prennent pas, donc Atosca ne remplissent pas leurs objectifs, et que ils avaient projeté d'acheter des terres qu'ils ne sont même pas sûrs d'avoir pour compenser le projet.
Et vas-y, Gaspard.
Oui, et puis c'est souvent arrivé sur les projets. Des fois il y a eu des promesses de compensation qui n'ont pas du tout été tenues, et puis même là la promesse, il y a eu une promesse qui a été faite, ça a été de compenser 5 fois plus que ce qui a été détruit. Bon, 5 fois plus, est-ce que ça va être tenu? On sait pas, c'est pas encore fait. 5 fois plus, faut des terrains, et puis 5 fois plus, ça voudrait dire qu'il compense, ça occupe beaucoup d'espace. C'est-à-dire qu'ils compensent sur des espaces qui sont déjà naturels, parce qu'il n'existe pas 5 fois plus de surfaces qui sont déjà détruites. Parce que l'histoire de compenser, c'est de renaturer des zones qui sont détruites. Donc ça voudrait dire renaturer des zones naturelles, ce qui est, qui a un intérêt écologique plutôt moindre.
Oui, Félicien.
Puis je voulais rebondir sur ce que tu disais, Gaspard. On ne peut pas déplacer une zone naturelle, c'est impossible. C'est un endroit et c'est surtout, ça détruit tout l'écosystème. On ne peut pas recréer la même chose ailleurs. Et le pire, c'est que dans l'histoire, bah, l'État est à fond derrière le projet. Et justement, c'est pour ça que ça arrive à se faire, parce que l'État soutient et subventionne un peu le projet, alors que c'est totalement bidon dans l'histoire.
Dites-moi.
Et le projet, il fait aussi plaisir aux grandes entreprises comme Pierre Fabre, qui est une entreprise localisée autour de Toulouse pour acheminer plein de camions. C'est surtout pour ça qu'ils font le projet, parce que la route nationale n'est pas du tout encombrée. Et pour eux, ça permettra juste de gagner une vingtaine de minutes de trajet, quoi.
Et
bah, vas-y, Muriel.
Sans compter que pour faire cette autoroute, deux usines vont voir le jour. Donc des usines extrêmement polluantes, notamment pour faire le béton, où le fréza est brûlé à très haute température. Donc fréza, c'est le reste des routes recyclées. Et donc plus le fréza est chauffé à haute température, plus l'air est pollué. Et donc ça sera toute la population locale qui sera à la fois impactée par l'autoroute, puisque leurs champs seront coupés, que leurs maisons seront... Ouais, que certaines maisons seraient expropriées. Et en plus de ça, l'air sera pollué.
Oui, Gaspard.
Et il faut aussi savoir que quand on construit une autoroute, c'est un petit peu un aimant à activité commerciale, un aimant à construction de zones commerciales, de zones d'activité. Et on pourrait dire oui, bah c'est très bien, ça fait vivre l'économie, tout ça, mais bon, on se demande si c'est encore dans l'air du temps de toujours construire, sachant qu'on a vu tout à l'heure que parfois on construisait des zones commerciales alors qu'il n'y avait pas forcément de demande, c'était juste un super U s'implantait pour juste faire concurrence à une autre grande surface voisine. C'est des choses comme ça qui se jouent, et puis on se demande si c'est encore notre objectif de la croissance, du toujours plus, de concurrencer l'autre, alors que les choses changent, il y a le réchauffement climatique et il y a d'autres préoccupations aujourd'hui.
Félicien.
Et puis ça veut dire du coup qu'on va artificialiser pour construire l'autoroute, mais on va artificialiser autour du coup pour, oui, comme tu disais, les zones industrielles. On va avoir du coup ces zones industrielles, il va falloir loger des gens, donc construction de nouveaux lotissements et tout, c'est un peu un cercle sans fin. Et du coup, ça, on va continuer à artificialiser de plus en plus les sols.
Donc, on n'entre pas du tout dans le cadre de la loi ZAN, ce qui est l'objectif zéro artificialisation nette, quoi.
D'ailleurs, il va falloir vraiment lutter contre ce projet avant qu'il se fasse, parce qu'il est prévu d'être fini en 2025, et les soulèvements de la terre et d'autres associations locales du coin de l'autoroute appellent vraiment à se mobiliser le 8 et 9 juin contre le projet de la 69.
Merci beaucoup pour ce débat. J'espère que vous avez pu participer chez vous. Vous pouvez même continuer le débat chez vous. Merci de nous avoir écoutés. C'était les locataires sur Radio G. Topette.
Salut tout le monde.
Salut, merci.
Salut. Artificialisation.
RSE Time avec les locataires, une émission environnement sur Radio G.